BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi ? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire ! Mais
vous avez dit qu'il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Audrey Tcherkov, Thomas Asportas, Good Evening Business.
19h sur BFM Business. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans la deuxième heure de Good Evening avec, comme tous les soirs, à mes côtés... Audrey Tcherkov, rebonsoir Audrey.
Rebonsoir Thomas et rebonsoir à tous.
Alors dans l'actualité ce soir, on a la France et l'Europe qui montrent les dents, on va dire ça comme ça, contre les plus grands noms internationaux de l'e-commerce et de la tech. En France, avec la loi anti-fast fashion qui, ça y est, vient d'être adoptée à l'Assemblée, et l'Europe avec des coups de pression dans tous les sens contre les géants internationaux de la tech au nom du DSA. Alors est-ce que ça y est, la naïveté s'est finie en France et en Europe? On va poser la question à nos experts, Audrey.
Et oui, nos experts, on va aussi leur parler logement, puisque la réunion qui a eu lieu à Bercy cet après-midi avec les assureurs dit qu'ils s'engagent à investir 400 millions d'euros pour financer 10 000 logements intermédiaires. Donc la question, c'est est-ce que c'est aux assureurs de faire notre job quand l'État n'a plus d'argent? Ça nous promet de beaux débats. Au casting ce soir, Bruno Coquet, qui est chercheur associé à l'OFCE, Sophie Kérob, cofondatrice de Rouskill, et Léonidas Calogéropoulos, PDG de Médiation et Arguments. Ça nous promet des accords et des désaccords.
Bon casting pour finir la semaine. Allez, c'est parti.
À tout de suite.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence ce journal avec l'image du jour quand même, ce vol d'essai très attendu de Starship. Starship, c'est la méga fusée de SpaceX. Aujourd'hui, c'était le troisième vol d'essai de ce titan de l'espace. Et même si la fusée a fini par se perdre, Starship a passé plusieurs minutes dans l'espace pour faire des tests et des essais. Et ça, c'est une étape majeure pour SpaceX et pour la NASA. Jean-Baptiste Huette.
C'est le plus grand objet jamais envoyé en orbite en un seul lancement. 50 mètres de haut, 9 mètres de diamètre, 1200 tonnes, le vaisseau Starship a brillamment rempli son contrat à l'occasion de ce troisième vol d'essai. Il a atteint une altitude d'environ 230 km, filant à plus de 26 000 km/h. Une fois en orbite, les équipes ont pu tester l'ouverture d'une des portes et surtout effectuer un transfert de carburant entre deux réservoirs. Une opération vitale en prévision des vols lunaires. Seul bémol, le retour sur Terre. Starship a été officiellement perdu, terminant sa course dans l'océan Indien. Starship, c'est l'une des pièces maîtresses des futures missions lunaires Artemis. C'est ce vaisseau qui doit convoyer des hommes entre une station spatiale et la Lune. La pression était maximale pour SpaceX, puisqu'après deux essais peu concluants, la NASA commençait à s'impatienter et à s'inquiéter pour le devenir des missions lunaires. Voilà l'agence spatiale américaine rassurée pour un temps, puisque de très nombreux tests, essais, réglages vont être encore nécessaires avant que ce mastodonte de l'espace soit déclaré bon pour le service.
Jean-Baptiste Huette, 19h03, on poursuit avec ces informations de Bloomberg selon lesquelles SoftBank voudrait investir dans Mistral AI. Bonsoir Frédéric Simotel. Frédéric, le géant japonais de la tech, visiblement, voudrait participer au prochain tour de table de notre pépite française de l'IA Mistral.
Ce sera un bond considérable pour Mistral AI. Ce sera vraiment une reconnaissance au niveau mondial. Bon, même si déjà ils sont assez connus. Rappelons quand même que le conglomérat japonais SoftBank, c'est 30% dans Alibaba, c'est 80% dans l'opérateur télécom Sprint. C'est le détenteur de ARM, qui font ces processeurs qui pourraient un jour concurrencer ceux de Nvidia. Et puis l'IA, c'est le nouveau dada de Masayoshi Son, le patron de SoftBank. Et donc, il veut investir, participer au prochain tour de table de Mistral. Rappelons que déjà, autour de table de Mistral, il vient d'y avoir Microsoft, il vient d'y avoir Salesforce, il vient d'y avoir Nvidia. Voilà ce qui valorise l'entreprise à près de 2 milliards de dollars. Et puis Mistral, vous savez, c'est un concurrent d'OpenAI, même si c'est pas exactement les mêmes. Enfin, il faudrait rentrer dans les détails pour donner tout ça, mais voilà, ça permet aux entreprises de choisir, d'avoir du OpenAI, du Mistral, du Lighton ou du Gemini de Google. Et donc Mistral va peu à peu commencer à vraiment jouer jeu égal avec OpenAI. Donc c'est un investissement à regarder de très très près. Et puis là, vraiment, on franchit une étape pour Mistral.
Merci beaucoup Frédéric. 19h05, on poursuit avec la conclusion d'un dossier qui a donné des sueurs froides au patronat depuis la rentrée dernière. C'est l'acquisition de congés payés pour les salariés pendant leurs arrêts maladie. Le Conseil d'État vient de rendre son avis et il va clairement limiter la casse pour les employeurs. Caroline Morisseau.
L'avis du Conseil d'État va clairement dans le sens des employeurs. D'abord sur la question de la rétroactivité qui alimentait toutes les craintes du patronat. Elle sera limitée à 3 ans maximum. Seuls les salariés ayant quitté leur entreprise moins de 3 ans avant la promulgation de la loi pourront réclamer des indemnités de congés payés sur leur période d'arrêt maladie. Quant aux salariés en poste, ce sera seulement 2 ans. On est donc très loin du pire des scénarios. Selon certains juristes, la mesure risquait d'être rétroactive sur 14 ans. Derrière, ces congés payés seront accordés dans la limite de 15 mois maximum. Dernier point enfin, ces indemnités seront calculées sur la base de 4 semaines par an et non 5, comme le prévoit le droit français, qui est plus avantageux que la législation européenne. La CPME, qui se bat depuis des mois pour obtenir gain de cause sur ce dossier, se dit soulagée. Cela va enfin permettre aux employeurs de savoir à quoi s'en tenir et de limiter la facture, nous dit l'un de ses responsables. Pour rappel, sans ces garde-fous, les organisations patronales redoutaient une facture de 2,5 milliards d'euros par an.
Caroline Morisseau, on poursuit avec la commission d'enquête au Sénat sur Total Energy et ses engagements climatiques. Aujourd'hui, c'est le patron de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, qui est venu témoigner en tant que gros client et consommateur de GNL pour ses navires. On va l'écouter, vous allez voir, pour lui, le GNL n'est qu'une énergie de transition. On l'écoute.
Est-ce que le GNL est l'énergie d'aujourd'hui et des demain? Probablement que non. Le GNL ne permet que de réduire nos émissions de CO2 de 20%. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on attende que quelqu'un décide quelle va être l'énergie de demain? Et cela peut prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans. Aujourd'hui, la seule solution que nous, transporteurs maritimes, avons trouvée, c'est le GNL. Moi, ça me coûte de l'argent, le GNL. Un bateau au GNL coûte beaucoup plus cher qu'un bateau propulsé au fioul conventionnel. Oui, ce n'est pas une solution définitive. Oui, elle ne permet pas de régler la question. Mais en même temps, réduire de 15 à 20% nos émissions de CO2, c'est un bon début.
Et ben voilà, le point de vue très tranché du patron de CMA-CGM sur le GNL. 19h07, pour finir ce journal, on va parler voyage, on va parler tourisme. On a peut-être tous envie de repartir en vacances avec le retour des beaux jours. En tout cas, aujourd'hui, c'est l'ouverture à Paris du Salon du Tourisme. Tourisme qui devrait enfin revenir cette année à ses niveaux d'avant-pandémie, d'après l'Organisation mondiale du tourisme. Mais visiblement, c'est quand même cette année, normalement, la fin de la folie des départs qu'on a connue ces dernières années après la fin des restrictions sanitaires. Et on a un marché qui va se normaliser. Hélène Cornet.
54% des Français ne sont pas prêts à sacrifier d'autres dépenses afin de partir en vacances. Résultat du dernier baromètre Podo, c'est la première fois que ce taux est aussi haut en 10 ans. Signe que l'inflation impacte vraiment le budget loisirs. Autre indicateur, 52% des Français s'offriront un hébergement payant cette année, selon le cabinet ProTourisme. Et là aussi, c'est 3 points de moins que l'an dernier. L'Organisation mondiale du tourisme s'attend elle aussi à ce que les touristes voyagent moins loin de chez eux cette année pour diminuer les frais. Même du côté des professionnels, on sent que niveau prix, on a atteint un plafond. Accor prévoit une croissance de son résultat opérationnel entre 3 et 4% cette année. Il a bondi de 23% l'an dernier. Après une année 2023 quasi record, donc 2024 sera celle de la normalisation, malgré l'accueil des Jeux Olympiques cet été, qui ont un peu un effet trompe-l'œil. Les arbres ne montent pas au ciel, résume le patron du cabinet MKG Consulting.
19h09, les palmiers peut-être, on va voir l'image. On va sur les marchés. Les marchés, je vous redonne la clôture du CAC ce soir à Euronext. Le CAC bas qui bat un nouveau record en clôture à 8161 points, on gagne 0,29%. Rebonsoir Clémence Tanguy en direct d'Euronext. Comment se passe la séance à Wall Street?
Bonsoir. Alors, la séance à Wall Street se passe de façon plutôt mitigée. Hein. La séance a été rythmée par la publication d'indicateurs macro qui est venue des États-Unis. Les nouvelles n'ont pas été très bonnes. Hein. Les ventes au détail sont reparties à la hausse en février aux US et les prix à la production sont sortis 2 fois plus forts qu'attendus. Hein. Alors, c'est des chiffres difficiles à encaisser après ceux publiés sur l'inflation mardi dernier. Alors, quelles conséquences ces chiffres auront-ils sur la politique monétaire de la Fed et le calendrier de baisse des taux? C'est la question que tout le monde se pose alors que la Banque centrale américaine se réunit mercredi prochain. Alors évidemment, le marché des taux a réagi hein, et le 10 ans US a grimpé. Alors les marchés encaissent quand même relativement bien la nouvelle. Hein. Ils marquent une pause, mais toujours sur des sommets. Sur les places boursières européennes aussi, l'ambiance était un peu à la baisse, hein, avec mais légère baisse, hein, avec un repli à la clôture pour le DAX, l'Eurostoxx ou encore le Spain IBEX 35. En revanche, hein, pour le CAC, une fois n'est pas coutume, il a surperformé aujourd'hui. Il clôturait ce soir en hausse de 0,29% à 8100 361 points. Un record historique en clôture, record historique aussi en séance, puisque l'indice parisien se fait une petite incursion ce matin au-delà des 8200 points.
Merci beaucoup Clémence. Et ben voilà, tout le monde est un petit peu dans le rouge et la France un petit peu dans le vert. Ça nous va. Allez, on marque une pause dans Good Evening Business et on se retrouve dans un instant après la pause avec Audrey Tcherkov bien sûr et nos experts. On débat jusqu'à 20h. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h12 sur BFM Business, bienvenue dans les experts du soir. On parle de la fast fashion. Bonsoir Bruno Coquet, chercheur associé à l'OFCE. Sophie Kérob, bonsoir, entrepreneur et fondatrice de WhoSkill. Et Léonidas Kalogeropoulos, PDG de Médiation et Arguments et fondateur de la plateforme des entrepreneurs pour la République.
Bonsoir.
On a tout dit.
Je pense, merci. Voilà, le général de l'Open Internet Project qui va nous donner l'occasion de parler du DMA peut-être.
Ah, probablement.
Probablement.
On en parle tout à l'heure, mais on commence maintenant avec ce projet de loi adopté donc largement à l'Assemblée contre ce qu'on appelle l'ultra fast fashion. On va dire ce que c'est tout à l'heure. En gros, c'est la mode éphémère à tout petit prix. Ça cible principalement les sites chinois que sont Chine et Temu. La majorité veut sévir contre ces entreprises parce qu'elles font du mal à l'écologie et puis aussi au commerce traditionnel. Donc deux mesures phares, un malus qui peut aller jusqu'à 10 euros et l'interdiction pour ces sites de faire de la publicité. Ce qu'on a envie de vous demander, c'est est-ce que les politiques sont dans leur rôle ou est-ce qu'il faut laisser faire la concurrence ? Léonidas.
Alors, moi, j'ai trouvé qu'il fallait finir par trouver un autre mot que libéralisme et j'ai consacré celui d'entrepreneurialisme parce que il faut qu'à un moment donné, on préserve les entrepreneurs et leur capacité à être présents sur un marché et pas simplement être focalisé sur est-ce que ça fait plaisir aux consommateurs. À un moment donné, le consommateur, il peut se dire super, j'ai des t-shirts faits en pétrole à 1 euro et donc le consommateur y gagne potentiellement et certains libéraux disent, puisque le consommateur y gagne, il ne faut pas intervenir. D'où ce débat, est-ce que le législateur est dans son rôle ? Mais si on laisse ce type d'offres envahir nos marchés, c'est tout simplement la concurrence qui est ruinée parce qu'on ne peut pas concurrencer des t-shirts à 1 euro. Donc c'est impossible. C'est un modèle économique qui est
comment dirais-je ? Il ne faut pas confondre libéralisme et concurrence déloyale.
Ah, ça en l'occurrence, libre-échange.
C'est un libre-échange qui permet d'abord un modèle qui est extrêmement non vertueux. D'abord à cause des matières premières qui sont utilisées, le gâchis invraisemblable, le fait que on pousse à la consommation de manière absolument outrancière. Donc clairement, c'est un élément qui vient totalement déséquilibrer la concurrence. Et à ce moment-là, me semble-t-il, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mot de libéralisme semble atteindre ses limites, les libéraux disent « Ah mais on n'a rien à dire, le consommateur est content. » Et le consommateur est seul.
Il est souverain, souverain.
En tout cas, content et souverain. Et s'il est souverain et qu'il achète, personne ne devrait intervenir. Je trouve ça totalement sain. En tant que libéral, en tous les cas, c'est le sens que j'y donne, qui est qu'il n'y a pas de libéralisme sans règles, mais ça a l'air paradoxal. En l'occurrence, intervenir avec des règles pour limiter, et en l'occurrence, pas interdire, mais limiter ce type d'intrusion qui déséquilibre le marché, je suis personnellement absolument convaincu que c'est une nécessité.
Sophie Kérob, vous partagez ce point de vue ?
Je partage complètement ce point de vue. Je pense qu'il faut commencer par informer les citoyens. Il faut peut-être être plus transparent sur ce que ça représente et pourquoi les prix sont si peu chers. Ils sont si peu chers parce que le coût de la main-d'œuvre est extrêmement bas. On a eu quand même pas mal de papiers et d'émissions qui ont montré que la main-d'œuvre était exploitée. Donc ça, il faut que ça se sache plus. Il y a des produits très polluants. Il y a des raisons qu'il faut qu'on explique aux consommateurs. Et il est question de ce score environnemental qui va aider à rendre lisible ce facteur-là.
Alors, la filière dit que c'est illisible, pour l'instant. On en parlait avec Yvan Petitot juste avant vous. Il dit justement, si vous avez compris ce que c'est ce score environnemental concocté par Bercy, vous m'expliquez.
Alors, il faut ensuite travailler sur un score lisible. Mais l'idée d'un score, je pense, c'est une très bonne idée.
Ouais.
D'abord, on informe. Mais je pense qu'à très court terme, informer ne va pas suffire. Et il va falloir qu'on aide les citoyens
parce que les gens
être responsables.
Les gens se doutent bien que des vêtements à 1 euro, ce n'est pas fabriqué made in France.
Voilà,
dans des conditions
ils le
parfaites.
Savent. Ils le savent. Ouais. Et si on en appelle à leur responsabilité, ça ne marchera pas. Pas tout de suite, en tout cas. Ouais. Ça marchera à long terme. Et donc, à court terme, je pense qu'il faut agir et que l'État doit s'impliquer.
Mais est-ce qu'en fait, tout simplement, l'État ne devrait pas agir à chaque fois qu'il s'agit d'importer des produits qui ne respectent pas nos normes sociales et environnementales sur la production, Bruno Coquet.
On vit dans un monde de libre-échange. Bon, après, moi, ce que je ne comprends pas, là, c'est la stratégie. Je ne vois pas où on va.
C'est-à-dire
on est dans le bus du textile, là, on a Chine et Temu qui font du bruit au fond du bus, donc on les jette dehors, on leur a interdit de prendre le bus. Mais au fond, où est-ce qu'on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? On va mettre une taxe sur les produits de une ou deux entreprises. On vise des entreprises déjà,
ouais.
Pas des produits. Alors on a le score environnemental, etc. Mmh. Après, si. Moi, je pense que ça, c'est une bonne chose, parce que c'est des critères qui touchent au produit, à la façon dont il est produit,
ouais.
Enfin, ses conditions de production, le bilan carbone, etc., le bilan pour la planète, on va dire. Et mais c'est comme les pommes arrosées de pesticides. À un moment donné, on peut dire on n'en veut pas. Mmh. Bah là, peut-être qu'il y a des produits dont on peut dire qu'on ne les veut pas. Mais qui que ce soit qui les produit, que ce soit une entreprise qui vend sur Internet ou une entreprise qui vend chez un hard discounter, dans un grand magasin physique. Donc du coup, je ne comprends pas... Enfin, je comprends la com, mais je ne comprends pas où on veut en venir, en fait.
Je pense que là, on veut venir quand même, c'est de prohiber quelque chose qui est prohibé depuis longtemps en droit de la concurrence, qui est le dumping. Dumping économique, dumping environnemental, dumping social. Et là, il y a tout. Tous les dumpings sont cumulés.
Mais c'est pas ce qu'on nous dit. C'est pas ce qu'on nous dit, Léonidas. Et en fait, le point, c'est que je suis parfaitement d'accord avec ça et je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il faut traiter ces problèmes de dumping. Mais du coup, c'est une stratégie plus large dont l'ultra fast fashion est un élément particulier.
Ah, mais on est totalement d'accord. Il me semble que là, on est au début d'une véritable stratégie qui prend en considération un certain nombre de réalités sur le marché ouvert international et le commerce. J'allais dire totalement débridé qui existe aujourd'hui, on est en train de lui mettre des règles. Et tant mieux, parce que, pardon, mais le libéralisme, comment dirais-je, caricatural, qui consisterait à dire on a laissé faire, laissé passer et on n'a rien à dire, on en connaît le résultat, c'est la désindustrialisation intégrale, c'est transformer petit à petit les consommateurs simplement en agents économiques qui sont subventionnés par des allocations, parce qu'ils n'ont plus d'emploi, parce que leurs entreprises ont coulé. Or, l'idée de la concurrence, au contraire, c'est de dire que les entreprises peuvent naître et se déployer parce qu'elles ont une émulation.
Oui, alors ça, c'est la concurrence vertueuse, mais ce n'est pas toujours le cas. Non, mais juste, Bruno, parce que tout à l'heure, vous disiez deux acteurs qui font du bruit au fond du bus. Ils sont plutôt au premier rang, parce que combien d'entreprises produisent...
Au fond, parce que c'est les derniers à être arrivés.
Oui, peut-être, non, mais combien d'entreprises...
Mais là, ils ont pris le volant. Ouais.
Aujourd'hui, ils produisent 7000 modèles par mois.
Par jour,
et bien, il n'y en a que deux. Quand d'autres en produisent 5000 par an, enfin, on voit bien qu'il y a un grand écart énorme. Et d'ailleurs, sur les habitudes de consommation, entre 2022 et 2023, donc en un an, on est passé de 41 vêtements achetés par Français à 48 pour des vêtements en plus qui sont jetés quand ils ont été portés plus de 7 fois. On est dans la surconsommation totale.
Non, mais on est d'accord, ça ne va pas comme ça n'allait pas pour les panneaux solaires en Allemagne il y a quelques années, comme ça ne va pas pour les batteries dans les véhicules low-cost.
Pour les produits agroalimentaires dont on parlait il y a quelques mois aussi.
Il y a une stratégie. Et donc, dans cette stratégie, il y a un bout, l'ultra fast fashion. Là, ce n'est pas ce qu'on nous dit. Là, on fait, c'est la fenêtre de tir, pas de l'opposition mais des groupes parlementaires pour déposer un projet de loi.
Ouais, c'est Horizon qui
dépose ce projet.
Ouais. C'était la journée
mais
Horizon.
Où ça va? Dans quoi ça s'inscrit? On aimerait que ça s'inscrive dans quelque chose de plus large, mais c'est pas...
Oui, vous déplorez qu'il n'y ait pas une perspective derrière industrielle autour du commerce et du textile.
Oui, puis surtout jusqu'où on va, comment tout ça s'applique.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que... Sophie Caramo, allez-y.
Voilà, c'est peut-être un début. On parlait de ce même problème de concurrence déloyale dans la crise qu'on a eue avec nos agriculteurs. Là, c'est l'ultra fashion et le ultra fast fashion et le fast fashion d'ailleurs, parce que la limite est un peu ténue.
Ouais, ça aussi, ça fait débat.
Je pense que c'est quand même le moment de se poser ce genre de questions et que c'est un début. Peut-être qu'il faut une politique beaucoup plus large, mais c'est déjà un début sur effectivement une industrie qui pollue énormément, qui a un impact social catastrophique.
Ouais,
et je pense que les citoyens sont victimes de ce marketing intensif dont ils sont abreuvés jour et nuit. C'est quand même une pollution visuelle énorme qu'on a sur nos smartphones. Mmh. Et du coup, ils sont manipulés, ils achètent plus qu'ils n'en ont besoin, ce qu'on disait Audrey. 48 vêtements, et peut-être même plus par an.
C'est en moyenne.
Oui, c'est une moyenne, donc ça peut aller jusqu'à 100, 150. Quand on n'a pas beaucoup de moyens, on se fait manipuler finalement.
Oui, voilà, c'est ça, exactement.
D'ailleurs, ouais, vous parlez de marketing, on a retrouvé les chiffres de pub de ces plateformes, enfin de Chine en l'occurrence, ils dépensent en pub autant chez nous que des marques comme Mercedes ou
ouais,
Disney.
C'est énorme. Donc, c'est énorme. Ça, c'est énorme. Mais juste quand même, parce que sur le manque de vision politique, j'écoutais Christophe Béchu et je trouvais que pour une fois, enfin en tout cas sur la partie transition climatique, on avait un cap. Quand il dit que tous les mois, il y a 15 millions de vêtements qui venus d'Europe qui échouent sur les plages des pays africains, et qu'en fait on a fait de l'Afrique la poubelle de la surconsommation européenne et qu'il fallait y mettre un terme. Enfin, il me semble que c'est un sujet important dont on doit se saisir.
Mais l'Afrique peut en parler à la Chine, c'est pas interdit non plus. C'est à ça que ça sert l'OMC.
Oui, enfin d'accord. Ah oui, ben, il y a plus d'OMC. Non, mais d'accord, le mais quand on importe des produits sur notre territoire qu'on exporte ensuite, parce qu'il faut bien justement trouver des poubelles.
Tout ça est innommable, je suis bien d'accord. Mais regardons le point de vue un peu cynique des choses. Alors moi, je suis pour qu'il y ait une stratégie ici. Je suis pour que, on la décline sur de nombreux produits avec une idée de réindustrialisation derrière. Très bien. Qu'on aille polluer l'Afrique avec nos vêtements, je trouve que c'est un vrai problème. Mais à un moment donné, les Africains peuvent aussi...
Mais pardonnez-moi, Bruno,
ne pas les produire.
Le fait que les pouvoirs publics, que l'État français, que le gouvernement, le Parlement se saisissent d'un sujet comme celui-là, ça me semble être assez sain. Alors, vous allez me dire probablement qu'il n'y a pas encore la doctrine globale qui permet d'avoir une lisibilité parfaite dans les limites de ce type d'intervention. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on va en faire une doctrine pour tous les produits, mais on est peut-être au début. On voit des problématiques dans les biocarburants, sur toutes les questions bientôt de caractéristiques de durabilité des batteries électriques. On a énormément de sujets. Mais là, on commence peut-être de manière un peu pragmatique et un peu expérimentale presque et empirique à tester une certaine manière d'intervenir. D'ailleurs, je présume qu'à un moment donné, la Chine ou d'autres pays, mais on va avoir un problème à peu près identique à évoquer avec le numérique. C'est pas très très éloigné, les abus que l'on peut avoir du côté des plateformes digitales.
C'est une concurrence déloyale.
C'est aussi des problématiques de concurrence déloyale. Et on est en train de mettre des règles. Alors, c'est le grand paradoxe des libéraux. Les libéraux expliquent que le libéralisme ne s'est jamais entendu comme une absence de règles, mais comme étant la liberté d'entreprendre dans un univers régulé.
Ouais.
Bon, c'est tout le paradoxe, c'est pour ça que le mot de libéralisme finit par ne plus être compris par les uns et les autres. Mais on est en train de mettre des règles, et je pense qu'on est au début de la construction de règles dont on peut déplorer vraiment de manière unanime qu'elles n'aient pas été mises en place bien avant.
Des règles pragmatiques, Sophie Kérol.
Pragmatiques, un malus pour ces produits qui hyper polluent.
Jusqu'à 10 euros.
Un score environnemental, interdiction de faire de la publicité,
ouais, alors
en particulier
ça, quand même,
pour les jeunes.
Ça va loin, interdire la publicité, on est sur des enjeux de santé publique.
Ouais. On est sur des enjeux de santé publique, mais on a quand même...
Enfin, ça revient à dire ça, quoi.
Non, mais on a des dérives qui sont quand même très fortes, et surtout sur la publicité vers les jeunes. Donc, je trouve que c'est très sain de cadrer tout ça, justement, un libéralisme encadré.
Parce que sachant que l'autre reproche qui est fait à cette industrie, c'est que leur modèle économique a quand même mis à mal notre commerce traditionnel. Enfin, ça a été le coup de grâce pour beaucoup d'enseignes françaises, les Pimki, les Camailleux, les Couilles. Non, on les a pas tendues. Alors, non, mais d'accord, on s'est pas adapté ni à la transition numérique, ni à l'évolution du secteur. Mais ça a été le coup de grâce.
La grande distribution.
Oui, mais voyez, par exemple, lorsque on met un malus de 10 euros.
Oui.
Qu'un t-shirt vaille 10 euros plutôt que 1 euro. À 10 euros, on est capable de concurrencer un t-shirt en France. À 1 euro, on n'est pas capable.
Oui.
Ou alors, on arrête d'avoir des droits sociaux,
les t-shirts à 1 euro échappent aux droits de douane puisque le seuil, c'est 150 euros.
Non. Donc, on est...
Donc en plus de ça, voilà, on en revient à cette concurrence déloyale.
Donc il s'agit, c'est davantage une mesure quasiment asymétrique avec une taxe qui permet de rétablir des conditions de concurrence. Et pour éviter que l'on ait, en quelque sorte, des produits qui viennent casser définitivement le jeu de la concurrence. Et ils plient le jeu et c'est fini. Et ce type de pratique explique que l'on ait des secteurs entiers qui aient été décimés. Je pense que c'est juste, non pas une mesure anticoncurrentielle, mais de restauration de concurrence loyale.
Après, je me fais l'avocat du diable, mais je pense que
ça vous va bien, ça vous va bien.
Bon.
Je disais l'inverse, mais bon, allez-y.
Non, mais je pense que beaucoup de gens, quand même, quand ils voient ça dans le pays, se disent, depuis quand en France, en 2024, c'est à l'État de me dire comment je dois m'habiller?
Mais il y a d'autres façons de s'habiller très peu cher. Il y a la seconde main qui existe.
C'est vrai.
Voilà, vous pouvez trouver pour 1 euro un t-shirt.
Oui, mais est-ce que c'est à l'État et à la puissance publique d'inciter nos comportements?
Alors,
vous voyez, c'est effectivement, il y a de la seconde main qui se développe toute seule, sans que l'État l'encourage.
À l'État de garantir que les règles...
Ça coûte très moins cher.
Que les règles...
Les Français sont
qui
grands,
sont imposées à l'industrie française soient les mêmes que celles qui sont imposées ou qui devraient être imposées aux produits.
Oui, voilà, c'est ça. En fait, on en revient aux clauses miroirs.
La concurrence loyale ou déloyale.
Et les produits qui ne respectent pas nos normes à nous ne devraient pas arriver sur le territoire.
Nos normes éthiques et environnementales.
Oui, ouais. Il faut voir les décrets d'application. Il faut toujours voir le détail.
Ah bah là, c'est que le début, parce qu'il y a même le Sénat avant même le décret.
Et puis après, il y a l'Europe quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul et qu'il faut aussi contrôler ce que font nos amis, parce que il faut se mettre d'accord avec eux, parce qu'il y a quand même des trous dans la raquette.
Hein. Oui, mais comme chacun sait, Bruno, s'il n'y a pas un pays qui donne l'exemple à un moment donné, il faut bien que la pulsion vienne de quelque part avant que l'Europe s'en saisisse.
De la même manière que la France a été justement en lead sur le sujet de l'intelligence artificielle et des GAFAM.
Je suis d'accord avec ça, mais c'est toujours mieux d'en parler d'abord à nos amis pour voir un petit peu ce qu'ils pensent de tout ça et voir si on va dans le bon sens ou pas.
Ils en ont probablement déjà parlé.
Ouais, enfin, mon expérience, c'est qu'en général, les Français aiment bien faire dans leur coin, et puis comme c'est super,
pas autant que les Allemands.
Autres que c'est super. Comment ?
Pas autant que les Allemands.
Oui, mais vous savez, c'est toute la magie de l'Europe.
Mais bon.
Bon, en tout cas, on n'en est qu'au tout début, puisqu'effectivement, maintenant, le texte va arriver au Sénat. Comme vous dites, il faudra des décrets derrière pour que ça devienne concret. Et puis, certainement, que cette mesure en appellera d'autres.
Mais
la fin là-dessus, Léonidas.
Il s'avère qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on voit des produits, juste ce sujet que je connais bien, des biodiesels, dans lesquels on a mis des règles extrêmement strictes en Europe pour avoir des biodiesels sourcés dans des huiles usagées ou des graisses animales. Et on voit des centaines de tonnes arriver de pseudo-biocarburants qui ne respectent pas ces règles-là. Ça fait s'écrouler les prix qui ne permettent plus aux industries qui faisaient la collecte de graisses usagées de pouvoir le faire.
Oui.
Il y a un moment donné où si on veut se fixer des objectifs et être ambitieux, on ne peut pas le faire dans un marché qui est une passoire totale dans lequel il n'y a pas les règles. Donc, je pense que c'est extrêmement sain. On se redonne un peu les moyens d'avoir une politique et d'avoir des ambitions. Vraiment, je pense qu'on ne peut que le saluer.
On se fait respecter, en résumé. Allez, 19h30, je vous redonne les principaux titres de l'actu. L'actualité, 19h30 sur BFM Business. La reprise se fait attendre, c'est ce que nous dit en résumé l'INSEE dans sa dernière note de conjoncture qui vient de nous parvenir et qui ramène à 0,0% sa prévision de croissance pour le premier trimestre contre 0,2% auparavant. Les premières données disponibles pour janvier 2024 sont mal orientées, nous dit l'INSEE, qui dit s'attendre en revanche à un peu plus de croissance que prévu au deuxième trimestre, 0,3% au lieu de 0,2%. L'Assemblée, on vient d'en parler, on en parle depuis 18h, a adopté donc à l'unanimité cette fameuse loi anti-fast fashion qui cible, sans les nommer, mais qui cible dans les faits les sites chinois comme Chine et Temu, avec notamment l'interdiction pour ces sites de faire de la publicité et un malus environnemental qui peut monter jusqu'à 10 euros par produit. La France accuse ces entreprises de dégâts sur l'environnement et de concurrence déloyale avec les autres commerçants. Et puis aux États-Unis, l'ancien secrétaire d'État au Trésor sous Donald Trump, Steven Mnuchin, veut racheter TikTok 24 heures après le vote de la Chambre des représentants qui accentue la pression sur le réseau social chinois. C'est une belle société, je vais assembler un groupe de personnes pour acheter TikTok, a déclaré aujourd'hui Steven Mnuchin, qui a monté sa société de capital investissement quand il a quitté le gouvernement américain de Donald Trump. 19h31, on marque une pause dans Good Evening Business et on se retrouve après la pub, Audrey.
On continue de décrypter l'actualité économique pour vous, à tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
19h33, les experts n'ont pas fini de débattre pendant la pub et on continue avec Sophie Kérob, Léonidas Kalogeropoulos et Bruno Coquet. Cette fois, on parle de ce tour de vis contre les grandes plateformes de la tech de la part de l'Union européenne qui tire aujourd'hui à peu près sur tout ce qui bouge, hein, de TikTok à AliExpress en passant par Google, Meta, Snap, X, même LinkedIn pardon, est dans l'œil du cyclone. Alors évidemment, tout ça a des degrés complètement différents parce que ce que la Commission européenne leur reproche à chacun, eh bien, ce sont des choses différentes. Est-ce qu'on peut se réjouir, en tout cas, que l'Europe montre enfin les dents face aux géants mondiaux de la tech, Sophie Kérob?
Ah oui, Complètement, bien sûr, Ah, oui, le DMA et le DSA qui sont entrés en œuvre à l'été dernier, c'est une grande, grande avancée. Et puis là, l'Europe est championne à ce niveau-là, donc bravo, c'était nécessaire.
Mais est-ce que c'est pas trop tard ?
C'est
jamais trop tard.
Jamais
je suis d'accord avec ça.
Et c'est mieux de le faire maintenant que d'attendre plus pour le faire. Et ça fait déjà bouger les choses.
Ouais.
Donc je trouve que c'est excellent de l'avoir fait. Il faut savoir que au cœur, quand même, il y a deux grands enjeux. Un, d'éviter une concurrence déloyale, encore une fois, hein, avec le DMA. Ouais. Et deux, avec le DSA, tout ce qui est interdit hors ligne, offline, doit être interdit online.
Oui.
Donc on doit respecter les mêmes règles éthiques, les mêmes règles de concurrence, les mêmes règles d'information sur le net que dans la vraie vie. Et je trouve ça extrêmement sain.
Le scepticisme légendaire de Bruno Coquet va venir évidemment modérer l'enthousiasme de Sophie, non ?
Pas du tout.
Ah. Alors,
c'est mal connaître.
Ah, oui, non,
pas de place pour les clichés dans
Godard. Non, je suis surprise.
Il n'y a pas que l'Europe qui engueule les GAFAM. Hein. On voit bien Zuckerberg s'excuse platement au Sénat américain parce que bon...
mais ça, c'est du théâtre,
on voit bien que
Bruno.
Ces gens exagèrent avec le pouvoir économique et le pouvoir de connaissance de leurs clients. On va les appeler choses comme ça, qu'ils ont acquis. Et donc, du coup, ils en font un usage immodéré et qui demande à être contrôlé. Alors, on n'a certes pas la même vue que les États-Unis sur la question, mais que l'Europe commence à essayer de mettre le nez là-dedans. Alors bon, c'est peut-être désordonné, c'est peut-être le début, on va changer de commission, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est bien. C'est bien de commencer à s'inquiéter du fait que ce n'est pas une liberté complète d'utiliser les données individuelles, de communiquer n'importe quoi, voilà, qu'il y a une responsabilité de ces entreprises qu'elles doivent avoir par rapport au réel, enfin, qu'elles soient placées sur le même plan que les autres. Et donc, du coup, c'est très bien.
Non, mais on ne faisait que courir après les abus. Vous vous souvenez qu'on passait notre temps à aller devant la commission et d'avoir Madame Margaret Vestager arrivant brandissant des montants toujours plus exorbitants d'amendes. Et en quoi est-ce que ça empêchait ? Ils finissaient par mettre dans leur cours d'exploitation le fait que tuer un marché, ça coûtait à peu près 2 milliards et que ça prenait à peu près 12 ans avant que la Cour de justice européenne y mette la dernière main.
Non, mais la question, c'est ça, Léonidas, parce qu'il y a des affaires, notamment contre Google et Microsoft, qui datent d'une dizaine d'années, qui ne sont toujours pas finalisées.
14 ans pour Google Shopping, et on n'a toujours pas le premier euro des 2,4 milliards. L'association, je suis délégué général, qui s'appelle l'Open Internet Project, est partie prenante dans cette affaire. On attend que le premier euro soit payé des 2,4 milliards d'amendes et on attend encore que la Cour de justice européenne donne le verdict.
Mais donc, est-ce que les mesures qui viennent d'être prises au niveau européen vont permettre à la justice d'accélérer ?
Elles vont permettre surtout d'avoir un traitement a priori des abus. Mmh. On ne faisait que courir après les abus une fois qu'ils étaient commis. Là, on est en train de pouvoir constater que des règles sont en train d'être violées, d'abord parce qu'on a détaillé ces règles. Ces règles, lorsqu'elles ne sont plus pas appliquées, et vous savez que ces règles sont applicables depuis une dizaine de jours, on voit la Commission qui est déjà en train de mettre en œuvre ce dispositif. Je pense que c'est extrêmement sain. D'ailleurs, on est à quelques mois d'une élection européenne majeure, où il est quand même question de savoir si l'Europe est capable de faire face et jouer son rôle. Pourquoi est-ce qu'on a une Europe ? Parce qu'on veut une Europe qui soit une puissance capable de répondre aux États-Unis, à la Chine ou à la Russie. On est en train de voir d'ailleurs sur la question des plateformes que l'Europe est tant en mesure de contre-attaquer devant des abus de plateformes chinoises que de plateformes
américaines. Mais alors justement, par rapport au calendrier que vous venez d'évoquer, il aura fallu une élection au niveau européen pour qu'on commence à se bouger sur le sujet.
Non, parce que les règles ont été mises en place très rapidement à l'arrivée de la précédente de la Commission, et c'est il faut saluer Thierry Breton qui en a été largement l'aspirateur.
Ouais, qui montre.
Les textes ont mis un certain temps à être rédigés, et puis il a quand même fallu avertir ces plateformes qu'elles allaient devoir se conformer à ces règles. Et maintenant, elles sont applicables depuis 10 jours et le couperet est déjà en train de tomber. Non, je trouve qu'il faut quand même, enfin, on se place suffisamment de lenteur ou d'inaction
des États-Unis.
Là, ça va vite et ça tape juste là où effectivement c'est mérité.
Vous parlez les uns et les autres du rôle de l'Europe. Pardon, je vais me refaire l'avocat du diable. Apparemment, ça me va bien. Mais est-ce que l'Europe tape et contrôle à défaut de pouvoir innover elle-même ?
Alors, bien entendu, nous souhaiterions que ce soit au bénéfice d'entreprises européennes qui émergent, mais on en a beaucoup qui sont aujourd'hui gardées un tout petit peu sous le boisseau parce que elles ont du mal à accéder à un marché numérique qui a été totalement préempté par ces grandes plateformes. Donc, je pense que nous avons...
Ça ne va pas les aider à...
Alors, ça ne va pas les aider. Ça va empêcher qu'elles aient des obstacles en chemin pour pouvoir croître.
Oui, c'est ça. Non, mais alors, parce qu'en fait, les GAFAM qui ont pendant toutes ces années complètement étouffé la concurrence avec des moyens assez controversés, est-ce qu'elles ont aussi étouffé l'innovation ?
Bien sûr,
Sophie Kerom.
Bien sûr, puisqu'elles ont freiné, elles ont même interdit l'accès à d'autres acteurs, donc en particulier l'innovation des entrepreneurs et autres. Donc ça, c'est très vertueux de le faire. Et là, dans les enquêtes qui sont menées par la Commission européenne, il n'y a pas que des histoires de concurrence déloyale. On a même trois sujets qui ne sont pas là-dessus, qui sont sur de la désinformation, sur la protection des mineurs et sur la vente de faux médicaments.
C'est pour ça que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.
Donc,
Audrey, ouais.
Ça, j'ai envie de vous dire, indépendamment de où on se trouve, nous, en Europe, dans la tech, il faut qu'on protège nos citoyens.
Ça, c'est sûr.
Et donc, c'est absolument indispensable de le faire. Et c'est très bien qu'elle ait un cadre qui permette de faire appliquer une loi, des directives. Donc, j'applaudis ça de mes deux mains.
Donc, on est tous d'accord, on a enfin un arsenal législatif européen adapté au secteur.
Non, la seule question qu'on se pose quand même, c'est que on parle d'entreprises tellement puissantes, est-ce que la loi européenne est assez forte dans le bras de fer ?
Pardon, Thomas, mais tout de même, on a eu l'occasion de dénoncer...
C'est clair qu'on s'en féliciter.
Non, mais on a eu l'occasion de dénoncer la loi de Google, parce que Google faisait ses propres lois, son self-preferencing, et il a été condamné tellement de fois par des autorités de concurrence qu'on pouvait légitimement le qualifier de délinquant multi récidiviste. Maintenant, il est temps que Google et les autres GAFAM et leurs homologues chinois sachent que ils évoluent dans un univers économique normé par des lois démocratiques dans des États et des continents organisés. Ce n'est pas leur loi. Les lois sont faites dans un environnement démocratique qui s'avère être l'Europe, et cette Europe est en train de se doter de règles qui avaient jusqu'à présent été absentes et qui avaient laissé un vide abyssal pour qu'elles créent leurs propres normes. Ce n'est pas ainsi que ça fonctionne.
On a un shérif. Il y a un chef. DSA, DMA.
Et voilà. Et c'est très bien. Il s'appelle aussi Thierry Breton.
Et en l'occurrence, il est temps
au-delà
que ça passe.
Au-delà de ça, c'est intéressant de voir que les géants de la tech se sont réunis et travaillent ensemble, collaborent ensemble, surtout dans le cadre du deepfake et au vu des élections à venir dans le monde, pour mettre en place, mettre en œuvre un cadre qui va les aider à mieux prévenir et à mieux gérer ces deepfakes. Donc, en dehors de ce que fait la Commission européenne, eux-mêmes ensemble, ça a été annoncé à Munich, ont mis en place ce dispositif, en tout cas mettent en place ces actions, pour aller dans le même sens en fait. Donc c'est du bon sens et du pragmatisme.
Oui, il faut peut-être éviter d'être aveugle sur le fait que s'il y a des sites qui véhiculent des fausses informations, c'est quand même qu'elles ont trouvé des sources de financement quelque part. Et il faut bien voir que ces sites sont généralement servis par des queues de comètes de campagnes publicitaires. Et l'acteur principal qui les saupoudre de ses moyens financiers, c'est quand même Google. Alors quand je vois Google collaborer avec l'AFP à la chasse aux fake news, dit qu'il y a quand même quelque chose d'un peu paradoxal dans le rôle de pompier pyromane.
Là, je voyais plutôt les géants de la tech eux-mêmes, Microsoft, IBM, Adobe, qui se sont réunis et qui travaillent là-dessus. Le patron de Microsoft qui s'est excusé parce qu'il y a eu des deepfakes qui ont touché Taylor Swift, il a dû s'excuser sur la chaîne télévisée, etc. Donc, je pense que la machine dépasse le créateur quelque part. Et qu'aujourd'hui, même ces géants ont du mal à canaliser
la pétition qui avait été signée par plus d'une centaine de personnes, notamment des cofondateurs et des fondateurs d'applications sur le sujet, pour dire faisons une pause sur l'intelligence artificielle parce que ça nous dépasse.
Ils sont conscients du danger qu'il y a derrière et je pense qu'ils en ont la volonté, en tout cas la volonté affichée. Et la Commission européenne se positionne encore une fois comme fervent défenseur des droits des citoyens et moi je suis pour.
Bon, voilà. J'ai droit à une remarque grinçante.
Ah mais oui, mais ça m'étonnait aussi. Allez, allez-y.
Non, mais LinkedIn valorise ses données et Pôle emploi se les fait voler gratuitement.
C'est pas mal, c'est pas mal, effectivement.
Et oui.
Allez, il nous reste une dizaine de minutes pour parler de logement. On revient en France avec ces annonces qui sont tombées dans l'après-midi. Bruno Le Maire et Guillaume Kasbarian ont réuni la profession, toutes les entreprises françaises de l'assurance pour leur demander, on va faire simple, de mettre au pot face à la crise du logement. Et ce qu'il en est ressorti, bah, c'est que ces entreprises, AXA et les autres, hein, tout le monde, vont mettre au total 400 millions d'euros pour financer du logement intermédiaire dans le pays. Est-ce que c'est à la finance de financer le logement en France quand l'État n'a plus un euro ?
Léonidas.
Oui, c'est pas un peu...
Alors 5 milliards, non ? Pas 400 millions ?
Non, alors 1 milliard, c'est au total avec l'argent de la Caisse des dépôts. Oui. Mais les assureurs, le privé, va mettre 400 millions.
Moi, je trouve que traditionnellement, on aurait vu une initiative parlementaire ou gouvernementale pour venir taxer les acteurs qui ont de l'argent pour que l'État décide où il faut investir. Là, on a mis les acteurs autour de la table et on s'est dit, on va tous ensemble œuvrer avec des investissements, ce qui signifie que ces assureurs vont devenir investisseurs et actionnaires de parcs immobiliers plus importants et d'ailleurs ciblés sur le logement intermédiaire. Je trouve que l'on est là dans une démarche de co-construction que je trouve extrêmement salutaire. Je trouve d'ailleurs que l'on est dans un nouveau type d'action publique. D'ailleurs, Bruno Le Maire en a expérimenté plusieurs fois le modèle en mettant tous les acteurs autour de la table et en fixant des caps collectifs de manière plus ou moins volontaire, plus ou moins incitée. Mais ça me semble infiniment plus intéressant que de faire des lois et de faire des taxes.
Excusez-moi d'heurter ce plaidoyer pour le gouvernement, mais c'est quand même très petit bras. Cet argent est censé construire 10 000 logements intermédiaires quand il en faut 400 000, Léonidas, et quand on a 2,6 millions de logements sociaux en attente.
Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que potentiellement c'est un premier pas qui peut entraîner une amplification du mouvement et qu'il est déjà salutaire que ce premier pas soit franchi avec l'idée que potentiellement ça puisse avoir un effet d'entraînement.
Je suis d'accord avec vous, c'est le début de la réponse. Ceci dit, je ne peux pas m'empêcher de ne pas comprendre ce décalage entre les besoins du terrain et les décisions politiques.
Bruno Coquet. Déjà,
pardon,
ça c'est un euphémisme.
Et donc du coup, on voit bien. Bon, on a eu cet aller-retour sur MaPrimeRénov. On restreint, on réélargit. On voit bien
on revient
que le gouvernement cherche tous les petits moyens possibles pour soutenir le secteur.
On fait tous les fonds de tiroir, ça c'est sûr.
Ça c'est clair. Et puis il a des énormes acteurs qui sont en difficulté parce qu'ils sont à la fois endettés, enfin Nexity ou des choses comme ça, des entreprises
qui font des plans sociaux,
qui sont très endettés, oui, qui font des plans sociaux, qui sont très endettés et dont le marché, puisque c'est des promoteurs dans le neuf, s'écroule. Donc du coup, on voit bien que le gouvernement est conduit à utiliser tous les bouts de ficelle qu'il peut utiliser pour essayer de soutenir ce secteur. Parce qu'il va avoir des problèmes d'emploi derrière, évidemment. Ouais. Au-delà des plans de licenciement, les petites entreprises vont sûrement avoir de gros problèmes. Et donc, du coup, on a cette annonce aujourd'hui qui porte sur 15 000 logements. C'est très bien. Le point, c'est que ces acteurs financiers, ils investissent habituellement déjà dans le logement.
Bien sûr.
Et donc, on aimerait comprendre en variante si on passe de 10 en rythme normal à 15 000 là, grâce à la réunion d'aujourd'hui, ou si on passe de 0 à 15 000. Enfin, on a du mal à repérer cette annonce dans le panorama total,
oui,
sachant
mais...
que le panorama total, pour moi, c'est un besoin de 500 000 logements par an. Et donc, c'est ce qu'on nous dit depuis 20 ans.
Absolument, mais
c'est ce que nous disait le gouvernement avec ce choc de l'offre qu'on attend. Moi, je suis
qu'on nous a promis.
Avec Audrey, oui, on nous l'a promis depuis longtemps déjà, depuis 2017, si je ne me trompe. Et je suis d'accord avec Audrey, je suis un peu déçue par la mesure de la mesure. C'est-à-dire que... alors, très encouragée par le fait que ça va dans le bon sens et que des grands financiers investissent et au lieu d'être taxés. Donc ça va vraiment dans le bon sens. Néanmoins, comment va-t-on faire pour régler ce problème ? Il y a 2,6 millions de personnes, enfin de ménages, qui sont en attente d'un logement social ou d'un logement intermédiaire. Comment on va faire pour honorer ces demandes? Et pour, alors moi qui suis entrepreneur, Il y a un vrai enjeu pour les entreprises parce que c'est un des freins majeurs au recrutement.
Ah mais complètement. Les enquêtes maintenant auprès de la CPME, effectivement, le disent. Il y a des offres d'emploi qui ne sont pas pourvues parce qu'il n'y a pas de logement à côté.
C'est le cas depuis très longtemps.
Ouais, bien sûr.
Oui, mais ça s'empire avec le manque de foncier.
C'est encore pire aujourd'hui. Alors pour nous, entreprises, alors je vais parler au nom des entreprises, Léonisa serait comme moi. Pour nous, entreprises, c'est encore pire aujourd'hui parce qu'on a des métiers en tension, en tout cas dans la tech. Donc c'est déjà compliqué de trouver les bonnes personnes. Mais en plus, les faire venir, quand on est dans une région comme l'Île-de-France, par exemple, ça devient extrêmement compliqué. Donc, on nous impose du télétravail parce que ça permet d'habiter dans des zones beaucoup moins coûteuses. Et du coup, pour une start-up comme la mienne, par exemple, comment vous voulez développer une équipe si vous avez des gens qui ne veulent pas venir?
Oui, c'est clair.
Donc, c'est un vrai enjeu.
Oui, mais, pardon, Léonidas, mais justement, j'en profite pour vous poser une question. Comment est-ce que le gouvernement peut résoudre cette équation foncière absolument insoluble entre l'urgence sociale, l'urgence écologique, l'empilement de normes, donc toute la partie réglementation, et des prix toujours plus hauts, notamment sur les matières premières?
Enfin, il y a en tous les cas une chose que l'on ne peut pas vouloir, c'est dans des émissions ici dire que le budget de l'État est absolument au bord de l'abîme et demander à l'État d'apporter plus d'argent. Donc je trouve que la manière dont on a réussi à mobiliser de grands financiers pour avoir un plan ou en tous les cas un redémarrage est une voie assez habile.
Pardon, il y a 15 jours c'était pareil avec les banques et l'agriculture, hein.
Oui.
Ça m'a pas échappé. Il y a une méthode.
Non, mais il y a un côté, on refile la patate chaude, quoi. On n'a plus d'argent, on va prendre l'argent où il est.
Et sur globalement tous les sujets.
Ça vous va comme, manière de faire?
Non, c'est pas que ça m'aille comme manière de faire, c'est que, encore une fois, je pense que traditionnellement, et nous le savons, tous les gouvernements précédents avaient une autre manière de faire, qui était de dire on va vous taxer, on va mettre une nouvelle taxe. Là, désormais, on mobilise des acteurs qui ont des moyens économiques. C'est pas de manière soft, c'est qu'on les rend aussi, peut-être, une des vertus de la situation
soft,
dans laquelle nous sommes.
On les a un peu mis au pied du mur.
C'est que, on rend les acteurs
moins hardcore qu'une taxe.
Oui. Les acteurs entrepreneuriaux, les acteurs privés, on les met autour de la table pour co-construire une vision commune d'un horizon, à la fois pour l'agriculture, pour le logement et probablement pour d'autres perspectives. Ouais. Je trouve, je crois qu'on dit que ça fait nation. Et personnellement, j'aime bien cette idée.
Ah mais c'est joli. Vous avez raison d'amener un peu de poésie.
Voyez.
Oui, tout à fait.
Je savais bien que ça vous parlerait. Au lieu d'opposer le monde gouvernemental, le monde public et les acteurs privés en disant on vous donne une injonction de faire, on va faire une loi, on va prendre la taxe et on va faire à votre place. Nous, on est en train de mettre les acteurs autour de la table et on va co-construire. Je trouve ça salutaire. On est bien d'accord. Au regard des problèmes que nous avons dans le logement, on est loin du compte encore, mais je pense que c'est un premier pas.
Bon, donc ça vous va, mais ça ne va pas à Bruno Coquet.
Mais ça me désole.
Je pense que c'est pas que ça ne va pas, je complète en sens où c'est un secteur où l'État met déjà énormément d'argent. Le logement.
Enfin, pour si peu de résultats, Bruno, il le met mal, le dépense mal.
Ah oui, mais c'est ce que j'allais dire.
C'est pour ça qu'il veut mettre moins d'argent.
Il y a une statistique d'Eurostat qui est rigolote, parce que ce n'est pas une mesure habituelle, qui dit qu'en France, on est au record européen, 83% des gens payent leur logement, qu'ils soient propriétaires ou locataires, en dessous du prix du marché. Donc ça illustre extrêmement bien le degré d'intervention de l'État, et donc du coup, si on en est là une fois de plus, son inefficacité aussi. Donc du coup, on manque peut-être d'argent, mais peut-être que dans celui qu'on met, on le met aussi
83%, mal. Mais c'est énorme sur la base de l'ensemble des aides énorme, et des subventions.
Alors, pour être franc, je ne sais pas d'où Eurostat sort cet indicateur, mais je l'utilise régulièrement, je trouve très rigolo.
Oui, plutôt inquiétant.
Une dernière chose là-dessus, et après on en arrête déjà aux arrêts de jeu.
Eh oui.
La nouvelle martingale, visiblement, dans le logement, c'est le logement intermédiaire, le gouvernement.
Oui.
Que ce mot-là à la bouche, est-ce qu'il a raison de vouloir pousser les feux là-dedans?
D'abord,
parce
énormément
que là, les
10 000 d'acteurs.
Logements annoncés, c'est du logement intermédiaire, et dans la loi SRU,
oui.
Énormément coulé d'encre. On va dans les quotas de logements sociaux, mais dans le logement intermédiaire.
Oui.
Est-ce qu'on a raison, là, de dire...
Ah, mais je pense que on a pris acte du fait que l'on avait mis le balancier de manière totalement excessive sur le logement social qui était le logement, je suis désolé de le dire comme ça, je n'avais pas d'autres termes qui me viennent à l'esprit, globalement le plus bas de gamme qui existait. Et le fait de cibler le logement intermédiaire, c'est aussi amener un certain nombre de collectivités locales à se dire, bien finalement, on va pouvoir aussi équilibrer nos...
Alors, équilibrer au moment où on a une explosion de la demande de logements sociaux, je ne sais pas si on peut parler d'équilibre, parce que là, en fait, tout ce que ça va faire finalement, c'est que ça va permettre, en effet, aux communes, aux villes et aux agglomérations, aux maires, de donner des logements à des jeunes cadres plutôt qu'à des chômeurs.
Oui, mais en l'occurrence, je pense que l'on a mis en exergue le fait que l'on est avec les aides, que ce soit les aides aux salaires les plus bas, les aides aux logements sociaux les plus abordables. On est dans un processus de spicardisation intégrale de la société française. Le fait de rééquilibrer un peu, c'est pas, on n'est pas en train de prohiber le fait d'investir dans le logement social. On est simplement en train de dire qu'on sera également dans ces objectifs si on intègre du logement intermédiaire. Et il me semble que c'est un rééquilibrage que les acteurs de l'immobilier appelaient de leur vœu depuis très longtemps.
Eh ben, on va suivre tout ça de près, évidemment, puisque la réforme de la loi SRU va pas tarder à arriver sur les bancs de l'Assemblée. Allez, c'est l'heure de l'extra time dans Good Evening. Il nous reste 3 minutes, même pas, pour vos coups de cœur et coups de gueule de l'actu. Qui commence, Bruno?
Alors, en 30 secondes.
Hein.
Bruno Coquet, vous ouvrez le bal.
Alors, le Conseil d'État, hier, a décidé de limiter le paiement des congés payés acquis pendant...
On va parler dans le journal, ouais.
Pendant les arrêts maladie. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette décision, c'est que le problème a été créé par l'Europe. C'est-à-dire que en Europe, on est dans le cadre de ce qu'on appelle la subsidiarité, c'est-à-dire tout ce qui est politique sociale, éducation, etc., est défini par les États membres. Et là, et donc, il définit un certain nombre de droits. Et là, le problème, c'est que la Cour de justice européenne et donc derrière la Cour de cassation sont intervenus pour dire, ben voilà, l'Europe vous dit qu'en fait, vous devez faire comme ça dans vos politiques sociales. Donc, c'est un contournement de la subsidiarité qui est un vrai problème.
Eh bien, ça, c'est dit. Sophie Kerob.
Alors moi, un peu de science. Mon coup de cœur va à un trou noir supermassif qu'on a détecté récemment, qui est le plus lumineux qu'on ait jamais détecté dans l'univers. Mm-hmm. Il avale plus d'un soleil par jour. Et alors pourquoi c'est mon coup de cœur? Parce que ce trou noir qui a...
Oui, il me fait un peu peur, ce trou noir, moi.
470 millions d'années, qui est né 470 millions d'années après le Big Bang, donc c'était très jeune, l'univers était très jeune, ne devrait pas exister. Il devrait avoir une apparence à 1 milliard d'années à peu près après le Big Bang, donc ça remet complètement en cause la compréhension qu'on a de l'univers, de la création.
Là, vous nous laissez sur notre faim, on a envie d'en savoir plus.
Je vous invite à vous renseigner sur le sujet, c'est fabuleux.
On dirait un film de Christopher Nolan. Léonidas, le mot de la fin pour vous.
Bien écoutez, on a parlé pas mal de digital aujourd'hui, et je voudrais redire un mot sur les déséquilibres que l'on a dans notre monde digital, avec cette décision qui a été prise par Biden d'avoir un executive order exigeant que des textes soient adoptés pour que toutes les données sensibles des Américains restent sur territoire américain et sous souveraineté américaine. Ah. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est arrivé au même moment que nous avons accordé à Microsoft la capacité de stocker les données de santé des Français.
Et oui.
Eh bien, il y a un principe qui est élémentaire. Réciprocité.
Et au même moment, on s'apprête à céder une partie d'Atos. Hein.
Eh bien, sachez qu'en tous les cas, il y aura des actions devant le Conseil d'État dès la semaine prochaine pour essayer d'obtenir cette réciprocité
sur
la maîtrise des données sensibles.
Merci à tous les trois, Léonidas Kalogeropoulos, Sophie Kerob, Bruno Coquet. Merci à vous, Audrey.
Mais merci à vous, Thomas.
Pour cette émission, pour cette semaine à vos côtés.
Pour cette semaine passionnante. L'émission est à retrouver comme tous les soirs, bien sûr. Ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code, sinon c'est bfmbusiness.com.
Oui.
Et puis, bien sûr, on vous retrouve demain.
On se retrouve demain et dans un instant, on retrouve François Sorel et Tech & Co pour toute l'actu de la tech en direct sur BFM Business.
Bonne soirée.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.